Brochure gratuite au 01 56 45 16 et sur concert.radiofrance.fr.
Abonnez-vous.
France Inter.
La voix est libre.
Allez, c'est l'heure de la basse. J'y suis avec Daniel Mermet, son répondeur et tous ses amis.
La prochaine réunion des amis de Nicolas Sarkozy aura lieu cellule 35, prison de Fleury-Mérogis. À propos des dernières mesures prises par François Hollande en matière de rapport entre les salariés et l'entreprise, la flexi-sécurité notamment, Laurence Parisot sur Canal+, les a jugées, je la cite, ouvrez les guillemets, absolument formidable, fermez les guillemets. Quelquefois j'ai envie de me casser de ce pays, et c'est sûrement pas pour aller planquer mon fric ni échapper à l'impôt.
Oui, je réagis tout de suite, Daniel Mermet, à ton émission, parce que je veux te dire que ça fait du bien quand on entend dire tout haut et par le service public ce que beaucoup d'entre nous pensent tout bas. Oui, nous sommes des milliers à avoir conscience que nos élites socialistes solfériniens nous conduisent, comme le joueur de flûte de Hamelin, tout droit dans les petits bras musclés de l'extrême droite. Alors je crois que c'est à chacun d'entre nous de réveiller les consciences assoupies de nos camarades devenus des gestionnaires de la crise et qui n'ont plus aucune réflexion politique alternative au capitalisme. Alors il faut que chacun de nous les interpelle, en n'oubliant pas que demain il y a des élections locales, et que nous, ce peuple de gauche, nous devons absolument reprendre la parole et redonner du sens à cette action politique. Merci encore pour cette émission. Denis de Romans.
Tu vois Marion, tu vois Daniel, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir lu Marx pour ça. Ça peut aider bien sûr. Il suffit de réfléchir, quoi. Il suffit d'observer, de réfléchir comment marche la société. Et puis on se dit, mais c'est pas possible, c'est une folie, quoi. Le capitalisme, c'est le système le plus délirant qui soit. C'est une erreur, mais une erreur, mais alors une erreur monumentale, quoi. Mais aux conséquences extrêmement dramatiques. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est que c'est l'humanité qui va disparaître. L'humanité, je parle pas des êtres humains, des êtres à forme humaine. C'est ce que ça veut dire, l'humanité. C'est ça qui va disparaître avec le capitalisme. Et ça, c'est pas nouveau. Tous les grands systèmes philosophiques, c'était pour sauvegarder l'humanité face à l'appât du gain.
Salut Daniel. Un petit message sur la propagande libérale qui continue de se répandre un peu partout. Ce vendredi 3 mai aura lieu à Nancy un grand forum économique européen où vont se réunir 600 chefs d'entreprise français, allemands, belges et luxembourgeois. Donc parmi les sujets abordés, le courage de la réforme, oser la liberté, public et privé, déplacer le curseur. Alors je te cite aussi quelques phrases du site officiel. Nous traversons une crise sévère et durable qui appelle des réformes budgétaires et structurelles, certes indispensables, mais qui font peur. Oser la liberté, c'est revenir aux sources et sortir de la peur de l'avenir. En ce début de troisième millénaire, le monde vit une profonde mutation imposant de nouveaux défis, obligeant à une nécessaire flexibilité des structures et surtout des mentalités. L'intervention de l'État dans l'économie est-elle utile? Le mode opératoire de nos sociétés est à repenser, en particulier celui de la fonction publique. Donc voilà, les libéraux continuent leur lavage de cerveau. C'est peut-être un peu tard, mais ça aurait été vraiment intéressant d'avoir une couverture de là-bas si j'y suis sur cet événement.
Merci beaucoup pour votre émission. On se souvient tous de la lutte des salariés de l'usine pneumatique continentale de Clairoy. Vous avez probablement aussi entendu parler récemment de la sortie du documentaire « La saga des Contis ». En ces jours de fête du travail et de manifestations sociales, le cinéma Les Lumières de Vitrolles, je précise Ville Libérée, proposera le vendredi 3 mai une soirée débat autour de ce film en présence de son réalisateur Jérôme Paltou. C'est donc vendredi 3 mai au cinéma Les Lumières de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Daniel Mermet pour tout ce que vous faites. Au revoir.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Mermet. Dites-moi, j'écoute une émission là sur France Culture, sur le Bangladesh. Alors j'entends parler de 5000 usines textiles, d'un milliard de t-shirts vendus dans le monde par an. Or, quand je vais dans des magasins comme Decathlon, par exemple, je regarde un petit peu la provenance de tous leurs t-shirts, Mais je vois jamais made in Bangladesh. Je comprends pas trop. Tu peux une fois nous éclairer un petit peu sur cette espèce de tour de passe-passe, là ?
Bon, on va essayer. Merci pour vos messages, chers... AMG, on va parler textile, on va parler Bangladesh aujourd'hui. En cette veille de 1er mai, je voudrais d'abord... vous lire quelques lignes tendez l'oreille. Merci Renaud, merci pour ces années de pression et ce chantage aux nuits, où le droit de grève n'existe pas. Ne pas protester, sinon gare. La peur, l'incertitude de l'avenir sont de bonne guerre, paraît-il. Tu expliqueras ça à mes filles, Carlos. Point. Des phrases, une lettre adressée à Carlos. Qui c'est ce Carlos? Ah, c'est Carlos Ghosn, le PDG du groupe Renault, le patron le mieux payé de France. 13,3 millions d'euros en 2012. Et qui a adressé ces lignes à Carlos Ghosn? Eh bien, c'est Cédric. Cédric, 35 ans, père de deux enfants, salarié du groupe Renault à Cléon, et qui, le 24 avril 2013, a mis fin à ses jours en se pendant sur son lieu de travail. Aujourd'hui même, sa famille, les siens, ses camarades l'accompagnent à sa dernière demeure. C'était son enterrement aujourd'hui. Et Carlos était Cédric n'était pas un passif du tout, c'était un gars engagé. Il s'était battu contre les accords de compétitivité, vous avez entendu ce mot-là, compétitivité. Mais il s'était battu contre ça, contre les accords de compétitivité en emploi. C'est des accords qui ressemblent dans leur contenu à l'accord national interprofessionnel, l'ANI, plus de flexibilité. Et voilà, le 13 mars, cet accord a été signé par Carlos Ghosn et trois syndicats de Renault. L'accord prévoit 7500 suppressions nettes d'emplois et une augmentation du temps de travail. Voilà ce qui motive, ce qui a motivé Cédric, ce qui explique le geste de Cédric. Au moment de ces obsèques qui ont lieu actuellement même à Belleboeuf, se tient à la même heure aujourd'hui, tiens c'est bizarre, au Palais des Congrès à Paris, l'Assemblée des actionnaires de Renault. Et on a interrogé par téléphone le porte-parole du groupe Renault qui nous a dit, je cite, « Ce sera une assemblée ordinaire, il n'y aura rien de particulier ». Voilà, à la mémoire de Cédric, donc, ces quelques mots. Oui, alors, le Bangladesh, on va aller faire un tour au Bangladesh, on va revenir au Bangladesh. On y était en mars 2006 avec Give Anctil, on était à Dhaka. Et lorsqu'on a appris qu'une usine était en feu, nous y sommes rendus et on a fait ce reportage qu'on va vous présenter à nouveau. On vous l'a présenté en novembre dernier dans une nouvelle version, ce reportage. Pourquoi en novembre dernier? Parce qu'il y avait eu, en novembre dernier, l'effondrement et l'incendie d'un immeuble dans la banlieue de Dhaka, faisant 110-115 morts. Mortes pour la plupart, il s'agit d'ouvrières le plus souvent. Et là, vous êtes au courant, cet auditeur vient d'en parler, l'immeuble, le building de tout près d'où nous étions, le building de Rana Plaza, s'est effondré en faisant au moins 376 morts, des mortes pour la plupart, 900 disparu. Il a fallu ce nombre de morts pour que l'information nous parvienne, pour que des images enfin nous parviennent des conditions de travail des ouvrières du textile au Bangladesh, qui est le deuxième pays producteur de textile et de confection au monde, avec 4500 ateliers, plus de 3 millions d'ouvrières qui travaillent dans cette branche et des conditions de travail qui restent absolument épouvantables. C'est autour entre 30 et 60 euros par jour selon le bon vouloir des patrons et de ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire la plupart du temps les membres du gouvernement. Alors à chaque fois, depuis 2005, je crois, on en est à un millier de morts. À chaque fois, c'est à peu près le même scénario, pour peu qu'on arrive à un certain nombre de victimes. Le gouvernement promet de porter plainte contre les propriétaires. Les syndicats locaux s'agitent, c'est ce qu'il y a de plus efficace probablement pour l'instant. Les donneurs d'ordre sont montrés du doigt, et les donneurs d'ordre, ce sont des grandes compagnies internationales comme Carrefour, comme Walmart, comme Benetton par exemple, mais beaucoup d'autres marques qui font fabriquer leurs textiles là-bas. On parle toujours de ces très grandes marques, mais il y a aussi des toutes petites marques. À Paris, vous baladez Place des Victoires, vous avez des beaux vêtements très chers. Il y a toutes les chances du monde pour qu'ils soient fabriqués également par ces ouvrières au Bangladesh. On insiste beaucoup sur ce thème dans la base, et j'y suis, parce que quand on a détruit le textile chez nous, à la fin dans les années 70, on disait bon, d'accord, c'est terrible, mais enfin, que voulez-vous ? Il y a de telles charges pour les employeurs. Et puis, les salaires sont tellement élevés qu'évidemment, par rapport à ces pays à bas coût de salaire, c'est impossible de tenir la concurrence. Et on se disait malgré soi, bon, c'est terrible pour nous, mais quand même, ça va permettre aux gens de ces pays sous-développés de se développer. Ça n'est pas le cas du tout. On ne dira jamais assez, c'est la mondialisation, les délocalisations n'ont en rien amélioré le sort des populations et des travailleurs et des travailleuses de ces pays-là. Ça a favorisé une groupusculaire, pourrait-on dire, oligarchie, et c'est tout. Ce sont les nouveaux barons voleurs du 21e siècle qui sont à la tête de ces pays et de ces entreprises localement, mais il n'y a pas d'amélioration dans la vie et le sort de ces ouvriers et de ces ouvrières. À chaque fois, on a également les ONG internationales qui essayent de faire de la sensibilisation auprès de la société civile, de faire des pressions avec, comme ceux que nous allons rencontrer par téléphone, éthique sur l'étiquette. On va parler avec Neila Ajaltouni, qui est la coordinatrice du collectif éthique sur l'étiquette et qui va nous parler un peu plus précisément de ce qui se passe actuellement à Dhaka et quelles sont les conditions, ce qu'elle peut nous dire sur ce drame terrible. Après quoi, nous retournerons, nous, à Dhaka en 2006.
À Dhaka, les organisations de défense des travailleurs se concentrent aujourd'hui sur une mission d'urgence, c'est-à-dire de voir quelle aide immédiate doit être apportée aux victimes et à leurs familles. Il y a la question de la prise en charge médicale, de l'accès aux soins, et puis bien sûr de la réparation, c'est-à-dire la compensation financière. On demande effectivement aussi aux multinationales de contribuer à la compensation financière des victimes.
Quelle confiance peut-on faire à ces multinationales quand on sait le nombre d'accidents qui se sont produits, dans lesquels les multinationales qui sont donneuses d'ordre dans ces usines de textiles au Bangladesh ont des responsabilités et depuis des années.
Tout à fait, oui. Leur responsabilité est avérée. D'une part, ces multinationales, elles se sont dirigées vers le Bangladesh pour une bonne raison. La main-d'œuvre du textile y est la moins chère du monde. L'État est absolument absent et n'assume pas sa responsabilité de protéger aussi les travailleurs des violations réalisées par les acteurs économiques. Donc il y a une chaîne de sous-traitance qui s'est développée, parfois dissimulée, mais dont les multinationales ont complètement connaissance. Donc elles ont une responsabilité de premier ordre. Et effectivement, vous le soulignez, ça fait des années, au moins depuis 2005 et l'accident Spectrum, qui mettait déjà en cause les multinationales européennes et notamment françaises, qu'on les alerte et qu'on tente de les amener à signer des accords efficaces, concrets et indépendants qui viseraient à prévenir de nouveaux accidents. À partir de 2011-2012, on dénombre déjà plus d'un millier de travailleurs qui ont perdu la vie dans des accidents ou des incendies d'usines et des milliers de blessés.
Citez-moi quelques entreprises qui sont mises en cause précisément depuis 2005.
Il y en a beaucoup. On a eu des noms comme Carrefour, Walmart, CEA. Sur ce cas très présent, on a déjà la confirmation que Mango, Benetton, Primark ou El Corte Inglés produisait dans ces usines. On a aussi retrouvé des étiquettes textes de la marque Carrefour. À ce jour, Carrefour annonce ne pas avoir de relations commerciales avec cette usine, ce qui nous laisse bien sûr soupçonner une chaîne de sous-traitance dissimulée, mais encore une fois, dont les grands acheteurs internationaux ont la responsabilité. Et puis il y a d'autres marques, donc dans ce cas très précis, là, C&A, Leclerc, sont listées comme clients, mais réfutent le fait qu'elles aient des relations commerciales avec ces usines.
Quand vous allez voir Leclerc ou Carrefour, qu'est-ce qu'on vous répond ?
Carrefour, ça fait quelques années, il faut le reconnaître, qu'on dialogue avec eux et on estime qu'elles ne prennent absolument pas mesure de l'urgence à agir concrètement. L'effondrement du Rana Plaza est encore un exemple que ces mesures volontaires, internes, sont absolument inefficaces pour prévenir de nouveaux risques. Donc il faut sortir du système interne, il faut passer par des systèmes contraignants et aujourd'hui, il y a un accord sur la table signé par les syndicats locaux mais aussi par la Fédération syndicale internationale, Industrial, qui prévoit un système de vérification des usines, de compensation, de remise aux normes. Donc nécessairement, ça veut dire que les entreprises doivent mettre la main au portefeuille et avancer des fonds. Et à ce jour, les marques françaises n'ont pas souhaité encore le signer, donc elles n'ont pas pris la mesure de l'urgence.
Dans la catastrophe du Rana Plaza, le copropriétaire de ces ateliers, M. David Mayor, qui est un industriel espagnol, est recherché par la police. Lui aussi prétendait faire de l'éthique.
Alors, il a été arrêté récemment et cet exemple montre aussi un problème très important au Bangladesh de la connivence très importante entre les milieux politiques, les milieux économiques et même médiatiques. Donc, ce patron d'usine était notamment un proche du pouvoir politique et de la même manière, les politiques ont des intérêts dans le secteur économique. Il faut savoir que le secteur textile y contribue à près de 80% des exportations. Donc, c'est un secteur central et l'État a aussi un intérêt à maintenir des salaires très bas et des conditions sociales dégradées pour attirer les investisseurs.
Il était poursuivi pour homicide par négligence par les autorités du Bangladesh. Vous pensez sérieusement qu'on peut faire de l'éthique et du capitalisme en même temps ?
C'est une vaste question. En tout cas, ce qui est certain pour nous, c'est que la question des droits fondamentaux, des droits de l'homme, elle doit être absolument sanctuarisée. Et ça n'est pas un choix à faire lorsqu'on veut faire du commerce. Et effectivement, la mondialisation, elle s'est traduite. D'ailleurs, l'accroissement des échanges ne s'est pas traduit par l'augmentation du bien-être général. On le voit bien, mais elle s'est traduite par aussi un vaste système d'exploitation. C'est pour ça que la pression citoyenne, il faut le reconnaître, et la pression des consommateurs, mais aussi la lumière que font les médias sur ces conditions est absolument indispensable.
Toutes ces pressions depuis 8 ans, vous disiez combien de morts depuis 2005 ?
On a compté déjà près d'un millier, plusieurs milliers de...
Donc toutes ces pressions depuis 8 ans n'ont pas réussi à enrayer cette suite d'accidents
À ce jour, non, parce que je pense que d'une part, les accidents restent isolés et peut-être aussi qu'on a une capacité d'indignation qui s'est un peu amoindrie à force d'être familier avec ces accidents qui se passent à l'autre bout du monde. Je voudrais préciser que au Bangladesh, les travailleurs sont loin d'être passifs, ils sont organisés, les syndicats s'organisent. Mais il y a une répression syndicale extrêmement forte. Et en fait, défendre ses droits, c'est aussi risquer sa vie dans certains pays. C'est là que on doit appeler à la solidarité internationale. Et il faut aussi rappeler qu'on le voit bien, la crise économique, la crise du capitalisme, elle se traduit par un appauvrissement des travailleurs dans le monde entier au profit d'une élite effectivement qui profite des fruits du capitalisme, qui se traduit par une dégradation des droits de tous les travailleurs dans le monde entier.
Merci beaucoup, Naïla.
Je vous en prie.
C'est son préféré au patron.
Our girls, you know, who are working in the factories. Although they are mostly illiterate, but they are very sharp. Their hands are very soft. And to handle the garments, Bangladeshi girls, you know, rather than Africans, they have big fingers.
Dans nos usines, nos femmes, même si elles sont illettrées, elles sont très très pointues et elles ont des mains très douces. Et les femmes bangladeshi, elles s'en sortent très très bien pour la confection, alors qu'en Afrique, les femmes ont les doigts beaucoup plus épais.
So, sorry to say if you have a big finger.
Désolé de le dire, mais si vous avez des gros doigts,
handle a sharp stitching like this.
Pour pouvoir faire une couture très fine comme ça sur une chemise.
C'est vrai, j'ai acheté une veste, elle se découpe partout. Si ça se trouve, elle a été faite en Afrique par une femme avec des gros doigts.
Maybe.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil. Du sang sur mes fringues.
Flight number 2. Arriving.
La dame est en train de faire des doublures de poche, alors que celle qui est derrière fait les coutures d'un pantalon rouge. Tout ça, ça va être pour cet été, pour la collection printemps-été. Mademoiselle derrière qui est en train de mettre les scratchs d'un pantalon. C'est les différents sons que ça fait. C'est son son préféré au patron.
Non, c'est un son qu'il aime bien parce que c'est un assemblage final.
All are poor lady, very much poor. They have no other source of income.
Voilà, toutes ces femmes sont pauvres et c'est leur seule source de revenus.
Yes, this one, after 10 to 15 days.
10 à 15 jours, il faut que ça soit envoyé.
This one, first of all, we make these garments, then need to send it to wash, then make it iron and finishing, then make it cartoning, then send to.
Ah oui, parce que là, d'abord, on confectionne, et puis après, il faut les laver, et puis après, il faut les repasser et les conditionner avant de les envoyer. Donc, toutes ces commandes-là, c'est tous ces petits pantalons roses d'été légers avec des poches et des coutures, avec des surpiqûres blanches, tout ça va partir dans 10 à 15 jours.
Quelques milliers d'ateliers comme celui-là, au Bangladesh ou ailleurs dans le monde. On pourrait être au Guatemala, en Chine, à l'île Maurice, à Madagascar, dans un de ces endroits, dans un de ces pays où l'on fabrique, entre autres, là en l'occurrence, des vêtements, de la confection, des textiles, comme on dit encore plus vaguement. Au Bangladesh, environ 2 millions. De personnes, essentiellement des femmes, à 90% des femmes travaillent dans ce secteur de la confection. On a voulu savoir, eh bien, alors là vraiment, qui coud nos chemises, qui coud ces vêtements que nous portons ici. On ne sait pas très bien d'où ça vient, on ne sait plus d'où ça vient depuis qu'il n'y a pratiquement plus d'activité de ce genre dans notre pays. La délocalisation, on s'en souvient, a renvoyé pas mal de monde au chômage, au tapis chez nous. Et puis, ben, c'est parti ailleurs, on ne sait où, dans des pays à bas salaire, avec toujours ce sentiment confus de culpabilité, de honte, en se disant peut-être qu'on est trop égoïste, peut-être qu'on veut tout pour nous, enfin une sorte de préférence nationale par rapport à ces pays pauvres qui, ben, grâce à ces activités, se développent ou se développeraient. C'est ce qu'on suppose et c'est ce qu'on nous dit parfois. C'est plutôt faux parce que ces produits qui sont destinés aux marchés occidentaux, ça peut être d'autres produits, hein. Ça pourrait être au Bangladesh par exemple l'activité dans la crevette. Il y a toute une activité dans la crevette, les délicieuses crevettes que nous dégustons. Pas mal viennent du Bangladesh, mais là c'est l'industrie du prêt-à-porter qui devait en principe sortir un pays comme celui-là, le Bangladesh, de la misère. Mais en guise de développement, eh bien, les Bangladais récoltent surtout de la paupérisation et de la violation des droits humains. On l'a vu avec l'activité du shipbreaking, c'est la destruction et le recyclage des navires. Et on nous a dit oui, mais dans le textile, c'est différent. Dans le textile, c'est différent parce que il y a la pression quand même des consommateurs, des pays riches, qui n'acceptent pas que les produits qu'ils consomment en matière de prêt-à-porter soient fabriqués dans n'importe quelle condition. Il y a des choses éthiques, éthiques sur l'étiquette, etc. Alors, on va aller voir effectivement dans quelles conditions tout ça se produit. Et on va rencontrer l'un des représentants, des patrons de ces entrepreneurs de prêt-à-porter. Et puis on ira visiter un de ces ateliers où travaillent ces jeunes femmes. Et puis, on aura des surprises dans la base où j'y suis sur France Inter.
Alors voilà, on entre dans l'atelier de confection. Effectivement, c'est que des femmes qui sont au travail. Il fait assez chaud. Et c'est des ateliers de machines à coudre. Bon, c'est une usine, mais c'est pas lamentable. Comme ça, quand on arrive comme ça, c'est pas lamentable.
99% is the female.
Ouais, 99% sont des femmes. Là, je vois un homme là-bas qui est installé.
Toutes les femmes qu'on voit pas dans les rues, elles sont ici. Hein? On voit leur visage, on voit qu'elles sont jeunes.
Tout
ça, c'est pour l'exportation à l'Europe, dit le patron. Et voilà ce qu'elles sont en train de faire, des espèces de petits pantalons.
Des pantalons blancs. C'est pour quel client?
Lowland Fashion.
Lowland Fashion. C'est pour les Pays-Bas.
Lowland Fashion, on va avancer un petit peu. Elles ne lèvent pas le nez, hein, les petites dames. Est-ce qu'il ne faut pas garder les hommes? Est-ce qu'il ne faut pas garder les blancs?
Ou est-ce qu'il faut produire?
Visiteurs, est-ce qu'il faut produire? Ah oui, il n'y a pas un regard sur nous. Si, de temps en temps, mais c'est à la dérobée quand même. Hein. Elles sont très très jeunes. Alors évidemment, c'est toujours ce qu'on nous fait visiter. On nous fait toujours visiter les endroits où ça marche, quoi. Avec le gars debout, avec son maître autour du cou, qui vérifie, qui contrôle.
Voilà, une visite à Chittagong dans l'atelier de confection. Les ouvrières qui sont là font partie des 2 millions d'ouvrières du textile, de la confection au Bangladesh. Leur salaire, dans le meilleur des cas, est autour de 30 euros par mois. Un vêtement qu'elles fabriquent va partir du Bangladesh à un peu moins de 5 euros, 4-5 euros, quel que soit le vêtement, c'est une moyenne, une chemise, un pantalon, une veste, autour de 5 euros, et arrivera chez votre marchand de vêtements du coin, que ce soit une grande surface ou plus luxueux, entre 60 et 200 ou 300 euros, si vous allez dans les beaux quartiers, vous pouvez très bien tomber sur ce genre de tarifs. Les ouvrières, donc autour de 30 euros par mois. Il faut rappeler une chose importante, c'est les patrons de ces grandes fabriques qui regroupent plusieurs ateliers, généralement dans les zones industrielles des grandes villes du Bangladesh, très souvent sont aussi parlementaires, ou en tous les cas très proches et très liés avec le pouvoir politique. Ils arrivent quand même à imposer l'interdiction de syndicats dans ce qui concerne le secteur textile. Ça, c'est interdit de se syndiquer. Dans les autres secteurs, oui, on peut voir. Mais dans celui-là, non. Évidemment, c'est le secteur le plus important. C'est 90% des exportations du Bangladesh où les patrons, à travers le pouvoir politique, arrivent à interdire le syndicalisme. On est avec Monsieur Abou Tayyab, c'était en 2006, hein, ce que vous entendez là, qui est vice-président de l'association des manufacturiers et exportateurs de vêtements du Bangladesh.
We are working for companies like Gap.
Nous, on travaille pour des compagnies comme Gap.
Old Navy. Like Marks & Spencer.
Ou alors comme Marks & Spencer, on travaille pour eux.
CNA.
CA.
And in France, like Carrefour.
En France, par exemple, on travaille pour Carrefour.
Carrefour, c'est une grande,
yes,
une grande entreprise.
Oui, beaucoup de travailleuses travaillent pour Carrefour.
All they are happy with our workmanship, you know. They are happy with our
workmanship. Ils sont tous contents de notre travail.
Carrefour, ils sont contents alors.
Yeah, they are also very happy, you know.
Oui, ils sont très contents.
Alors, il y a eu cette histoire de l'usine Spectrum.
Spectrum.
Actually, you know, gentlemen, I'm telling you one thing. This is a simple accident.
Ça, il faut que je vous dise, c'était vraiment un cas particulier. C'était un accident.
You cannot judge, you know, incident with the whole nation.
Because on peut pas juger tout un pays à l'aune d'un seul incident.
Enfin, ça a quand même été terrible.
Non,
it was definitely terrible, you know. You know, accident may happen in Paris also because.
Mais vous savez, c'est des grands accidents, des grands bâtiments qui s'effondraient. Vous savez, des accidents comme ça peut même arriver à Paris.
C'est un immeuble de 9 étages qui s'est effondré le 11 avril 2005. C'est près de Dakar, ça va. Et c'est l'entreprise Spectrum Sweater. Il y a eu 64 morts, 74 blessés, les ouvrières, c'était la nuit. Les ouvrières qui ont été prises entre les plaques, entre les étages, qui se sont effondrées comme ça. Et vous considérez que c'est un accident?
Definitely, it was an accident, you know. And there was some, you know, wrong construction problem with, you know, this is nothing with the, you know, quality of commerce in Bangladesh.
Ça rien à voir vraiment avec la qualité de la confection au Bangladesh. C'était vraiment un accident qui tient plus à des faits de critères de construction qui n'ont pas été respectés.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi justement cette course au prix toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas, auquel vous êtes astreint à cause de votre position? Effectivement, vous êtes un pays pauvre et vous devez produire plus bas. Est-ce que ce n'est pas cette pression que vous avez sur votre industrie qui amène ce genre d'accident?
Oh, not exactly, because
non,
you know.
Pas vraiment, je pense pas.
I'm telling you again, this spectrum is not our national scenario.
Mais je vous dis encore, c'est pas représentatif de ce qui s'est passé à l'échelon national, cette usine Spectrum.
Sauf que, 2 heures à peine après cet entretien, mais à peine. On a été appelé par téléphone par un ami journaliste de Chittagong qui nous a dit il y a une usine en feu. 2 heures après cet entretien, une usine en feu dans un quartier de Chittagong, dans le quartier de Kalurgat, l'usine KTS, c'est-à-dire une usine de confection. Alors, c'était pas du tout l'usine qu'on nous a fait visiter tout à l'heure. C'était plongé dans la nuit. Les flammes sortaient de cette fabrique. Foule, pompiers, rares pompiers, angoisse. C'est assez extraordinaire ce qu'on voit parce qu'il y a un pompier avec un jet d'eau. Et ici, à 3 mètres de nous, il y a des cuves énormes. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, qui sont en train de fumer. Il y a des étincelles qui sortent des cuves. Et pour tout sauvetage, il y a ce jet d'eau qui tape en haut dans une...
Le deuxième étage.
On sent la chaleur, on est à 5 mètres de l'incendie. On voit des étincelles qui sortent de ces cuves qui peuvent très bien péter d'un moment à l'autre. Là-bas, on voit des étincelles qui sortent et le feu continue à l'intérieur du bâtiment. Et pour l'instant, les pompiers n'ont pas réussi à entrer dedans. Mais on ne sait pas où sont les pompiers parce que pour l'instant, il y a un pompier à l'œuvre dans tout ça et un jet d'eau.
On éclaire à la lampe poche. On voit encore des flammes qui sortent.
Police commissaire.
Le commissaire de police est là aussi. Ouais, toutes les autorités sont là.
C'est the chief law enforcement agency in the city.
C'est le chef de la police de la ville.
Bonjour, c'est pour la radio française. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé?
Yeah, the factory was set on fire at about 7:32.
L'incendie a commencé dans cet atelier de confection vers 7h30, 8h moins le quart aujourd'hui. La police a été prévenue, qui a immédiatement prévenu les pompiers.
Combien de victimes pour l'instant officiellement?
About 60 burn injuries, out of which 6 died.
Plus de 60 personnes qui ont été brûlées et blessées par le feu. Il y en a parmi ces 60 personnes, 6 sont mortes.
Combien de personnes étaient au travail quand l'incendie s'est déclaré?
I can't say for sure. But as I heard, 1,200
À peu près 1,200 personnes. C'est pas sûr, mais 1,200 personnes étaient là en train de travailler. Et là, pendant ce temps-là, on voit un gars qui est en train de se faire éclairer, qui est en train de monter une échelle bricolée avec des bambous et qui est soutenu par des autres.
Alors, l'immeuble a été vidé. Il n'y a plus personne dans l'immeuble.
Well, we are not sure. We are afraid that some people are still inside.
Non, c'est pas sûr. On a peur qu'il y ait encore des gens qui soient à l'intérieur.
Est-ce que vous pouvez nous dire à qui appartiennent les entreprises qui sont là?
KTS.
KTS.
The owner is Mr. Ohidul.
Monsieur Ohidul, qui est le propriétaire de cette boîte.
Voilà dans quelles conditions sont cousues les chemises que nous portons, les vêtements que nous portons dans ce genre d'usine. Et quant au patron, Monsieur Ohidul Alam, qui est un patron important, qui possède 5 usines, on pense qu'il a autour de 10 000 ouvriers, ouvrières plutôt, qui travaillent pour lui, et bien sitôt que l'incendie s'est déclenché, il a fui. Par la suite, le lendemain ou le surlendemain, il a été arrêté. Là, on en était, selon la police, à 6 morts, selon d'autres sources, 8 morts, mais on était en plein incendie. Des femmes, des ouvrières étaient prises à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur des flammes. Certaines se jetaient par les fenêtres parce que les portes de sortie avaient été fermées. Et selon des rumeurs, mais qui se sont confirmées par la suite, les portes avaient été fermées parce que les ouvrières, au terme de leur temps de travail, c'est-à-dire au terme de leurs 10 heures de travail, elles voulaient partir. Mais comme il y avait une commande urgente,
les contremaîtres avaient fait fermer les portes de façon à ce que les ouvriers restent dans l'usine pour continuer de travailler. Les informations ont été recoupées et il semble que cette version soit la bonne. On n'en est pas encore là pour l'instant, on est au milieu des flammes avec ces rares pompiers et ces flammes et cette nuit et cette angoisse.
C'est vrai qu'on sent les bouffées de chaleur là. Voilà, c'est là où le feu a commencé. C'est d'ici que le feu est parti. Et on voit encore des grandes flammes là qui sortent, regarde. Ah ouais.
Mais ce qui est assez formidable, c'est que cet après-midi même, on a visité un atelier, ici dans Chittagong, un atelier de couture, gentil comme tout, joli comme tout. On nous a dit, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de truc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas raconter ça sur le Bangladesh. Et là, on voit un atelier où il y avait 1200 ouvrières qui étaient en train de travailler. Pour l'instant, il y a 8 morts. 60 blessés graves. Il y a peut-être des gens qui sont encore à l'intérieur. Il y a peut-être des morts à l'intérieur qu'on trouvera, on ne sait pas quand.
I'm very much sorry that it may crack down because last 5 years it is firing.
Mamoun est très inquiet que ça s'effondre parce que ça fait 5 heures que c'est en train de brûler sans que ça s'arrête et donc il y a vraiment un risque d'effondrement de ce bâtiment.
The factory is full of cotton. Voilà. Raw materials,
il y a plein de matériaux premiers, de coton, de vêtements qui ont été à moitié finis. Donc le feu est entretenu en permanence.
Regarde là, c'est en train de reprendre là, c'est en train de reprendre au-dessus de nous, tu vois, c'est un boulot fou. Hein. Les gars sont en train de monter une grande échelle à la main, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de grue, il n'y a pas de véhicule. Les pompiers tiennent les lances qui sont très faibles de portée à la main. Et là, ils sont en train d'essayer de dresser une échelle. Mais il n'y a pas de véhicule pour dresser l'échelle. C'est insensé, la pauvreté en moyen, quoi. C'est terrible hein, de penser qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur qui sont en train de brûler là-dedans. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est cette pression imbécile de la consommation qui veut. Des prix, de la camelote, toujours de la camelote, toujours des prix plus bas. Et puis un pays hyper pauvre. Un pays hyper pauvre qui est bien obligé de s'écraser et de répondre à ses commandes à prix cassé, quoi. C'est pas n'importe quel incendie, ce qu'on voit. Évidemment, ça se passe comme n'importe quel incendie. Sauf que ça, c'est un incendie de pauvre. C'est un incendie de pauvre et c'est l'incendie de l'exploitation. Il est 20h, ça fait 5h30.
La police qui passe.
I think we should leave because other secret agency may follow us.
Ah, Ils pensent qu'il faudrait mieux partir parce que maintenant il y a des services secrets qui sont présents et qui risquent de nous suivre. Voilà, les ambulances qui sont là, à moitié vides, mais t'as vu, c'est encore des ambulances du tiers-monde, quoi. C'est une pauvre camionnette avec un vide-camp à l'intérieur.
Voilà cet incendie terrible. Le lendemain, eh bien, nous nous rendons à l'hôpital de Chittagong, au Medical College Hôpital de Chittagong, pour essayer de rencontrer les familles des victimes, voir où en sont les victimes. Il y a foule, évidemment, une foule hagarde de gens hébétés d'angoisse, de souffrance, parce qu'on ne sait pas qui... des gens ont disparu, ma sœur a disparu, mon frère a disparu. C'est beaucoup, beaucoup des femmes, des jeunes femmes qui ont disparu. Et la foule est dans l'hôpital, cherchant dans tous les sens d'avoir des nouvelles des siens, des leurs.
Là, il y a tout un groupement de femmes. On voit que c'est des femmes modestes avec leurs saris qui sont posées dans un coin, qui attendent apparemment depuis un moment. Là, on sent la tension dans l'air. Il y a des gens qui sont là, l'air un peu hagard dans les coins. On essaie d'avoir des nouvelles. Et voilà, par là-bas, il y en a d'autres.
Vous avez des parents qui ont été blessés ?
J'ai ma tante et mon oncle qui sont blessés.
Voilà une dame qui nous regarde droit dans les yeux et qui tient la photo d'une gamine, d'une petite fille. C'est qui, madame ? Vous nous montrez une photo ?
C'est ma fille.
Vous la cherchez ?
Oui, je la cherche.
Elle s'appelle comment ?
Mouni. Elle s'appelle Mouni. Elle a 18 ans.
Elle était dans l'immeuble hier soir ?
Oui, elle travaillait dans cette usine textile où on a eu l'incendie hier.
Et vous êtes sans nouvelles, là ?
Non. Donc je ne l'ai pas encore retrouvé parce qu'on ne m'autorise pas à entrer. Pourquoi? Pourquoi il nous fait travailler nos filles jusqu'à si tard du soir quand il doit normalement terminer à 16h30? On pense qu'ils n'ont pas un bon traitement ici aussi. Parce que nous sommes pauvres.
Voilà, la visite officielle est en train d'avoir lieu. C'est un ministre local qui est en train de s'arrêter devant les femmes qui sont allongées sur leur lit. Il s'incline et il leur demande de leurs nouvelles. Et il y en a... Oh là 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 là.
Alors là, notre interprète ne nous a pas suivis parce qu'il y a une salle de 40-50 lits avec des gens, des femmes dans un état absolument terrible. Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Je sais pas. De brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure. Elle est absolument défigurée, c'est atroce. Là, il y a celle-ci qui a l'air plutôt morte que vive, qui a 18 ans, qui, si elle n'est pas morte, en a plus pour longtemps. Là, c'est plutôt des morts qu'on est en train de voir que des brûlés. C'est assez terrifiant. Hein. Elle a 15 ans. Elle est brûlée à 16%, cette jeune fille. Celle-ci, elle est brûlée à 10%. On ne voit pas très bien, mais les visages absolument défigurés, défigurés à jamais. Celle-ci, qui est complètement, qui a l'air plutôt plus morte que vive, même si elle semble respirer encore un peu, elle est brûlée à 25%. Elle s'appelle Margina, elle a 19 ans, celle-ci a 18 ans, elle est brûlée à 15%, celle-ci, Levely, elle est brûlée à 30%. On est en train de lui faire des soins, mais ça a l'air bien désespéré. Celle-ci, elle est brûlée à 10%, elle a 18 ans, celle-ci, c'est terrifiant. Celle-ci est en train de finir sa vie. Très probablement, c'est absolument terrifiant. Elle a le visage complètement boursouflé, gonflé, et elle est brûlée à 30%, elle a 20 ans.
Vous avez vu les soins, quoi. Ils ont juste une perfusion de sérum fille et un peu de biafine sur les plaies, c'est tout, quoi.
Celle-ci a 17 ans, elle est brûlée à 21%. 10 pas. Cette jeune fille-là, son nom n'est pas encore indiqué. Elle bouge encore.
T'as vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%? 12 ans.
12 ans. Je crois que c'est la pire de toutes, celle-là. Hein,
elle a les mains complètement bandées.
Ouais.
Et la respiration octante.
Elle y travaillait.
Je vois. Il faut lui faire de la place parce qu'elle est petite, cette femme. Vous vous appelez comment?
Namrishma.
Je m'appelle Reshma.
Reshma. Quel âge vous avez, Reshma?
J'ai 13 ans.
Vous avez 13 ans. Et vous travaillez dans l'entreprise?
Oui.
Je suis à côté.
J'assiste à couper les fils.
Vous étiez là pendant l'incendie, au moment de l'incendie?
Si, là.
Oui, j'y étais. Il y avait une panne d'électricité et donc on avait mis le générateur. Mais quand l'électricité est revenue, on n'a pas éteint le générateur. Et donc c'est par là que l'incendie s'était produit.
Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu une explosion?
Oui, j'ai entendu le feu, et j'ai entendu au secours, et après j'ai vu beaucoup de personnes brûlées, et nous sommes tous sortis parce que nous avons eu peur.
Comment tu as fui, toi?
J'ai essayé de sortir. Comme je suis très petite, j'étais presque écrasée sous les pieds des autres. Mais quand même, on a tous couru vers la porte qui était fermée à clé. Donc, je n'ai pas pu sortir. Finalement, quelqu'un de l'extérieur de la porte m'a enlevée au-dessous de la porte.
Et après?
তারপর আমি দৌড় দিয়ে আমি কান্না করি আমাদের বোনের জন্য, আমাদের বোনের জন্য কান্না করি। তারপর আমি বাসায় চলে যাই, বাসায় চলে যাই, আমি খবর দেই, তারপর আমি বাসা থেকে আর আসতে পারি না।
Commencé à pleurer pour ma sœur qui était au dedans et après je suis allée chez je suis retournée chez moi pour informer ma famille ce qui s'était passé.
Ta sœur était dedans?
আমার বোন ছিল ভিতরে, বাড়াতে পারে নাই কোন। আমার বোন নিচে আসতে লাগছে, নিচে থেকে আগুন ধরছে তো আর আর বাড়াতে পারে নাই।
Elle n'a pas pu sortir, elle est restée parce qu'elle a essayé de descendre pour sortir. Mais comme le feu a été en bas, près de l'escalier, elle n'a pas pu sortir.
Et ta sœur, elle a quel âge?
Elle a 11 ans.
Elle a 11 ans, ma sœur.
Ta sœur, elle a 11 ans. Elle travaille et elle a 11 ans?
Oui. Oui.
Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Pourcentage de brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure, elle est absolument défigurée, c'est atroce.
C'est vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%?
12 ans.
12 ans.
Des centaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue au Bangladesh, près de Dhaka, ce vendredi. La foule en colère s'est attaquée à des usines, obligeant certaines à fermer, et des heurts ont éclaté avec la police.
Euronews, 30 avril 2013.
Ce mouvement de contestation ouvrier intervient après l'effondrement d'un bâtiment de 8 étages, dans lequel près de 300 ouvriers du textile ont trouvé la mort mercredi dernier. Pour ce dirigeant syndical, le gouvernement, le propriétaire du bâtiment, les acheteurs, l'association des fabricants et exportateurs de l'habillement du Bangladesh et les propriétaires des usines doivent payer une compensation équitable. Le bâtiment abritait des ateliers de confection. Il s'est effondré juste après l'embauche, prenant au piège plus de 3000 personnes. Un millier d'ouvriers, des femmes principalement, sont portés disparus. Chaque jour, le bilan s'alourdit, près de 300 morts pour l'instant et un millier de blessés. Ce drame est à ce jour le pire accident de l'histoire industrielle du Bangladesh. Il relance la polémique sur les conditions de travail des ouvriers du textile.
Il n'y a évidemment aucune polémique possible sur les conditions de travail des femmes dans le textile au Bangladesh. Ces conditions de travail sont simplement inhumaines. Alors, ce qu'on entend là, c'est effectivement les manifestations des syndicalistes. Il y a des syndicats, surtout un syndicat, Awad Foundation, qui est un syndicat très bien organisé, très structuré. Beaucoup de femmes dans ce syndicat qui se battent, qui se sont battues, qui ont manifesté ces jours derniers, pas seulement à Dhaka, mais à travers le Bangladesh, qui ont été réprimées de façon extrêmement violente, à coups de bâtons, à coups de gaz lacrymogène. Il faut espérer que enfin les choses changent dans ce pays, mais c'est loin d'être gagné dans la mesure où la classe politique du Bangladesh est complètement liée avec cette activité industrielle. Beaucoup des députés au Bangladesh sont également propriétaires d'entreprises de textile, 4500 entreprises entreprise de textile dans le pays. Mais les ouvriers, les salariés, les ouvrières surtout, donc, se battent, dont une femme qu'on a vue ces jours derniers vraiment en pleine bagarre et qu'on avait rencontrée à cette époque, Nazma Akhter.
My name is Nazma Akhter. I am the General Secretary of Awas Foundation.
Je suis Nazma Akhter, secrétaire générale de Awas Foundation.
Alors là, on vous voit manifester. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
You know, in Bangladesh, more than 4,000 factories in our country.
Vous savez, il y a plus de 4,000 usines de confection dans notre pays.
And 85% are women.
Et 85% des travailleuses sont des femmes.
But every year, every moment, we don't have any safety in the garments industry.
Mais il n'y a jamais, jamais, à aucun moment, il y a des garanties de sécurité dans cette industrie.
Because there sometimes there fire, they had an accident, in fire accident, sometimes the factory collapse. So these things are continuing.
Il y a des feux, des incidents, là comme aujourd'hui, une usine qui s'effondre, ça arrive sans cesse.
Every moment, everywhere, the garments worker they couldn't get any protection. They doesn't have any safe security. Even their wages is very low. They are working.
Les salaires sont très bas, les conditions de travail sont très mauvaises aussi. Et à tout moment, il y a des accidents qui arrivent dans l'industrie de la confection.
Parlez-nous de la responsabilité des acheteurs étrangers, des acheteurs occidentaux dans cette affaire.
All of the European or American who are working, in general, their factory scenery or picture, you can find all that equal, like wages, like working hour, like their behavior, all are same. I cannot claim.
Je ne peux pas en blâmer une plus qu'une autre, je ne peux pas en distinguer une des autres. Toutes les multinationales qui sont présentes ici, qui travaillent sur le même modèle pour les heures de travail, pour les salaires, etc.
Because we know in France you have the factory brand in Bangladesh. We know in Germany many ways.
On sait que vous en France vous avez des marques qui produisent au Bangladesh, mais aussi en Allemagne et partout.
But all are equal. This is our opinion.
Et nous, on pense qu'elles sont toutes pareilles. Qu'elles sont toutes pareilles.
Alors ça c'est une responsabilité. Quelles sont les autres responsabilités?
Also, our government is negligible for this.
Bien sûr, aussi c'est notre gouvernement qui est très négligent dans cette affaire.
Because you know, even we have problem with the compensation law because the law was passed like since 1923, almost 100 years.
Par exemple, les lois pour les indemnités, cette loi-là a été votée en 1923. Elle a presque 100 ans. Elle n'a jamais été remise à jour.
Very small amount of money the family will get, but it's not sufficient.
Les familles ne se voient verser que des toutes petites sommes d'argent, ce qui sont absolument insuffisantes.
In country, even garments owner, government, they are earning lots of money from those workers, even multinational companies.
Alors que les multinationales, notre gouvernement et les patrons ici gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces ouvrières.
You know, in Bangladesh, when the garments worker are killed or die or a difficult accident, we getting 100,000 taka for the compensation.
Vous savez, au Bangladesh, quand un ouvrier meurt sur son lieu de travail dans une industrie de la confection, on ne touche que 100 000 taka d'indemnité. C'est-à-dire 1300 euros.
That is not a human price.
Ce n'est pas un prix pour une vie humaine.
Voilà. C'est que vous, un être humain, une femme comme vous, ici, c'est 1300 euros.
Should be not only profitable, it should be also looking for the human. Otherwise, this situation will be happen everywhere.
Le marché, c'est pas simplement faire du profit, c'est aussi penser à l'aspect humain des choses. Sinon, cette situation va se reproduire partout ailleurs.
Because you know, like myself, I was working in the factory when I was 11 years old.
Parce que moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans une usine de confection à l'âge de 11 ans.
But only I faced the problem in the garment sector. I suffered many problems.
Even personally,
we lost our job.
That is why we are. Et c'est pour ça maintenant.
Working last 15 years for the workers.
Et c'est pour ça que ça fait depuis 15 ans qu'on travaille pour les ouvriers, pour les travailleurs.
Even in Bangladesh, we have problem with the many men leadership. There is very small percentage of women because they are deprived. Also, women should not raise.
That is why. Et ici au Bangladesh aussi, on a beaucoup de problèmes parce que c'est une société qui est tenue par les hommes et il y a très peu de place qui est laissée nous pour les femmes pour pouvoir nous battre et nous tenir.
Merci à toutes et à tous. C'était Du sang sur ma chemise, nouvelle version d'un reportage avec Guy Van Til, diffusé pour la première fois le 21 et 22 mars 2006. Merci à Nazma Akhter de la Fondation Awaj. Et puis hommage pour cette émission à Corchet d'Alarme, qui est aujourd'hui décédé, un journaliste engagé que nous avions rencontré lors de cette série de reportages au Bangladesh. Merci à Naïla Jaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org, et aller faire un tour sur la page Facebook de Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Renan Mahé et Pauline Laverdure, Lucie Akoun et Franck Adhérer ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Du 18 au 21 juillet, vivez 4 jours de fête et de musique en plein cœur de la Bretagne avec plus de 70 concerts, 5 scènes. Neil Young, Elton John, Rammstein, Phoenix, Asaf Avidan, Al Jay, M. Mais aussi Roquette Traoré, Oxmo Puccino, Lou Doyon, Mesparo, Marie-Pierre Arthur, Brains et bien d'autres. Renseignements sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur Inter, on se retrouve demain, 1er mai, à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
D'où proviennent les 500 000 euros retrouvés sur un compte de Claude Guéant lors de perquisitions chez lui en février dernier? L'ancien ministre de l'Intérieur affirme que c'est le fruit de la vente de tableaux, en l'occurrence celui d'un peintre flamand du XVIIe siècle. Mais selon la société Art Price, aujourd'hui, son prix hors frais aux enchères ne dépasserait pas les 140 000 euros. Le chiffre de 500 000 euros apparaît donc, selon Art Price, comme une anomalie par rapport au prix du marché. La justice enquête de son côté sur un éventuel financement occulte de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2016. Via des fonds libyens, ce que dément aujourd'hui Claude Guéant. Elle était venue pour inaugurer une nouvelle prison à Alençon dans l'Orne en guise de comité d'accueil. La ministre de la Justice a eu droit aujourd'hui à une centaine de manifestants anti-mariage homosexuel. 6 personnes ont été interpellées pour des inscriptions sur la route et des jets de fumigène. 4 ont été immédiatement relâchées. Par ailleurs, des croix gammées ont été inscrites sur la mairie de Condé-sur-Sarthe, près du centre pénitentiaire. On ne sait pas si ces inscriptions ont un lien avec les manifestants. Il s'était engagé à rendre compte de son action tous les 6 mois lors de la campagne présidentielle l'an dernier. Pour la deuxième fois depuis son élection, François Hollande va s'exprimer devant les médias. Ce sera le 16 mai prochain à l'Élysée. Une ancienne auxiliaire de puériculture d'une pouponnière du 13e arrondissement de Paris a été mise en examen. Elle est poursuivie pour homicide involontaire. Cela fait suite à la mort d'un nourrisson d'un mois en septembre dernier. Il avait été retrouvé à côté d'un garçon de 3 ans et l'autopsie avait révélé qu'il avait subi un traumatisme crânien et des morsures. Au moment des faits, l'auxiliaire de puériculture avait la garde du nourrisson en question. Elle a été licenciée dans la foulée. Une taxe sur l'électricité et le gaz va augmenter. Il s'agit de la contribution tarifaire d'acheminement, une première depuis 2005. La CTA est prélevée sur les factures d'électricité et de gaz et elle finance les retraites de certains agents. Selon le ministère de l'Écologie, qui a publié aujourd'hui l'arrêté au journal officiel, cette augmentation sera sans grand impact pour le consommateur. Pour mieux lutter contre la précarité énergétique, la ville de Grenoble a décidé de mettre en place une plateforme cette année. Elle a pour but d'identifier et d'aider les personnes en difficulté, soit 300 ménages estimés par la ville de Grenoble. Selon une étude publiée aujourd'hui, un Français sur 10 a des difficultés pour payer sa facture d'électricité. 4 islamistes ont été interpellés aujourd'hui en Italie. Ils sont soupçonnés de préparer des attentats en Italie, mais aussi en Israël et aux États-Unis. En Grande-Bretagne, cette fois, 6 islamistes ont, eux, plaidé coupables aujourd'hui devant un tribunal de Londres pour préparation d'actes terroristes. Ils ont reconnu avoir planifié un attentat contre un rassemblement d'extrême droite en Angleterre en juin 2012. Ils avaient projeté de venir avec des armes à feu, des épées et une bombe. Le complot a finalement échoué parce qu'ils sont arrivés trop tard. La manifestation était déjà dispersée depuis 2 heures et la police n'a découvert le complot qu'incidemment lors d'un contrôle routier alors qu'il tentait de rentrer chez eux. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Ce soir, à partir de 21h,
concert exceptionnel d'Al Jay
en direct sur France Inter.
Une soirée présentée par Alexandre Hérault
et Aurélie Sfez.
Les 4 garçons de Leeds qui forment l'édifice musical d'Al Jay seront exceptionnellement dans Ouvert la nuit. Dites-nous tout, Aurélie, sur eux.
Un groove et une voix à fleur de peau. Des synthétiseurs organiques, troublants comme les reflets de l'eau.
et incandescent comme la braise du feu.
Let's dance a little.
Yeah. Alger en concert
avec Deezer
au Studio 105.
Un concert unique à vivre en direct sur France Inter
ce soir
à partir de 21h.
France Inter.
La voix est libre.
Allez Frédéric Ledéon, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Laetitia, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais on a la preuve avec ce rondo de Frédéric Chopin, composé à l'âge de 18 ans. Ça nous est envoyé par l'Institut Chopin de Varsovie. Donc c'est du solide, c'est du beau. Et les interprètes, c'est Daniel Weimann et Dina Ioffe. Mais voilà, de musique juvénile, on passe à de la musique quand même très très bien écrite. Le concept d'un étudiant est loin derrière. Chopin a déjà toutes ses capacités, tous ses moyens. Évidemment, il avait les doigts pour jouer cette œuvre-là, mais il a eu aussi la plume pour la laisser pour l'éternité. Rondo en do majeur pour deux pianos. Thank you.